Les podcasts de Nouvelle Acropole France.
Kant et la morale universelle. Par Isabelle Oman, rédactrice en chef de la revue Acropolis.
Article de la revue Acropolis numéro 360 d'avril 2024, lu par son auteur.
Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Emmanuel Kant. Comment Emmanuel Kant, né en 1724 et mort en 1804, ce philosophe des Lumières dont nous célébrons le 300e anniversaire de la naissance, révolutionna-t-il la philosophie morale pour la mettre à la portée de tous? Emmanuel Kant est né à Königsberg, dans la Prusse orientale, en 1724. Il était issu d'une famille d'humble origine, aux revenus modestes. Il fut éduqué pendant ses premières années dans la ligne religieuse du piétisme. Après ses années de collège, il étudia la philosophie, les mathématiques et la théologie à l'université de sa ville natale. Ses études universitaires terminées, il travailla comme précepteur privé pour des familles de la haute société jusqu'à sa nomination comme professeur à l'université de Königsberg en 1755. Il y donna, jusqu'à sa mort, des cours de logique et de métaphysique. Ces cours étaient si intéressants que les étudiants arrivaient une heure plus tôt pour être sûr d'avoir une place dans la salle. Cependant, au cours de ses dernières années, sans doute atteint de la maladie d'Alzheimer, il ne put poursuivre ses cours universitaires, car il avait perdu la mémoire et la parole. Il mourut en 1804. Triste destin pour quelqu'un qui avait consacré sa vie entière à l'exercice de la pensée. Sa vie privée est l'objet de spéculations. Était-il véritablement cet homme casanier, célibataire et hypochondriaque, dont la vie a été décrite comme millimétrée au point qu'on le surnomma l'horloge de Königsberg? Est-il vrai, comme le raconte la légende, qu'il était réveillé chaque matin par son valet à 5h05 et que 5 minutes après, il se trouvait au travail à son bureau? Que tout aussi régulièrement, à 12h45, il se mettait à table avec un nombre toujours identique de convives triés sur le volet et prévenus à la dernière minute? Ou encore, qu'il faisait après le déjeuner une promenade au parcours immuable, interrompue seulement 2 fois, la première par l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, la deuxième par l'annonce de la prise de la Bastille. Certains universitaires mettent aujourd'hui en doute cette forme rigide de vie, arguant que Kant était très en prise avec l'actualité de son époque et qu'il y a un amalgame avec la vie rigoriste d'un de ses amis. Même si l'on dit qu'il ne s'était jamais éloigné de plus de 60 kilomètres de Königsberg, c'était un homme ouvert aux réalités du monde, qui déjeunait chaque jour avec un inconnu. Quoi qu'il en soit, Kant reste un monument de la pensée. Que dois-je faire? C'est dans son ouvrage « Fondement de la métaphysique des mœurs », écrit en 1785, que Kant va poser la question du devoir et de la liberté de l'homme. Il répond par ce précepte paradoxal. Être libre, c'est obéir à la loi morale. Que veut-il dire par là? Kant pose le principe d'une loi morale universelle que chaque homme peut percevoir à l'intérieur de lui-même. Cette loi, qui ne procède d'aucune loi ou contrainte extérieure, s'exprime en lui comme la voix de la conscience, comme une voix d'airain. Selon lui, ce sens moral est le même pour tous et accessible à tous, quel que soit son niveau d'éducation. Il ne dépend pas d'un savoir. Tout le monde sait, sans qu'on ait besoin de le lui dire, ce qu'il a à faire pour être bon et vertueux. Cette loi morale a le caractère d'un impératif catégorique, c'est-à-dire qu'elle ne dépend d'aucun intérêt personnel. On n'est pas bon pour obtenir quelque chose, mais parce qu'il est moral d'être bon en soi. Comment reconnaître en nous cette loi morale universelle ? Kant propose une méthode pour discerner quand nos principes d'action sont moraux ou non. Il s'agit tout simplement de vérifier l'universalité de cette loi en se posant la question de savoir si nous voudrions qu'elle soit appliquée à tous les hommes. C'est le sens de son fameux précepte. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle. Mais il faut également vérifier que ce principe est non seulement possible, mais souhaitable, c'est-à-dire qu'il sert l'intérêt pratique de l'individu. Par exemple, il est possible de ne pas vouloir développer ses propres facultés. Mais est-ce vraiment universellement souhaitable? De la même manière, il est possible d'envisager un monde où chacun ment et peut ne pas tenir ses promesses. Mais est-ce possible? Car si tout le monde ment, la vérité disparaît, outre le fait que ce n'est pas souhaitable. Ainsi, du point de vue de Kant, reconnaître une loi morale, c'est être capable d'en universaliser le principe. Kant nous explique aussi que suivre sa loi morale nous rend plus libres. En quoi obéir à la voix de sa conscience nous rend-il libres ? La question se pose, tant cette injonction peut nous paraître contradictoire. En effet, nous opposons souvent liberté et obéissance. Alors, qu'est-ce que la liberté ? Pour Kant, penser que la liberté c'est faire tout ce qu'on désire, c'est ignorer qu'agir par désir, c'est agir en prisonnier de son ego, de ses caprices, et en fin de compte, comme l'esclave d'autres principes ou des circonstances. Cette liberté-là n'est qu'apparente, c'est en réalité un esclavage. La véritable liberté est celle de suivre la raison, nous dit-il. La raison, en tant qu'elle nous prescrit un chemin moral universel. Suivre la voie de sa conscience morale nous sort de la tyrannie des instincts qui sont propres aux animaux et nous rend véritablement humains. C'est la loi morale qui nous permet d'assumer pleinement une action, c'est-à-dire d'en être responsable, un des principes de la liberté. Dans sa critique de la raison pratique, Kant distingue la raison pratique de la raison théorique. Pour dire le vrai en matière théorique, il faut avoir une grande connaissance du monde et une riche expérience. Mais on n'a pas besoin de cela pour la loi morale. On la connaît en écoutant la voix de la conscience. Être moral n'a donc rien à voir avec le fait d'être intelligent ou cultivé. On peut être l'un sans l'autre. Malheureusement, nous avons beaucoup d'exemples de personnes très éduquées qui peuvent être des crapules. Ce n'est pas parce qu'on connaît la morale qu'on est intègre, c'est parce qu'on la pratique. Parce que, nous dit Kant, si tout le monde est capable de juger moralement, tous ne sont pas forcément capables d'agir moralement. Pourquoi donc ne sommes-nous tous pas capables d'obéir à cette loi morale? Parce que, selon Kant, nous ne sommes pas tous au même degré de liberté. Le plus bas degré est celui de pouvoir choisir tout et n'importe quoi. Et le plus haut, c'est celui de l'obéissance à sa propre loi, non pas à ce que je désire, mais à ce que je veux, au sens fort du terme, c'est-à-dire d'une volonté gouvernée par la raison et pas par les instincts. Pour passer de l'intention à l'action, il s'agit donc de se rendre libre. C'est là sans doute la limite de la philosophie de Kant. Car, même s'il dit combattre un intellectualisme moral, le philosophe de Königsberg reste sur un plan analytique, dont on ne constate que trop bien qu'il fonde l'impuissance de nos contemporains et de notre société tout entière à résoudre leurs problèmes. Il manque la dimension de la philosophie pratique, telle qu'enseignée par les anciens, celle qui articule le lien entre la raison pratique et la vie courante, entre le devoir et le comportement, celle qui libère le pouvoir de chaque être humain de mettre en cohérence ses principes et ses actions.